بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Peu s'en faut que ceux qui m'y croient ne te transpercent par le regard quand ils entendent le Coran. Ils disent, il est certes fou, et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Chers frères en islam, nous remercions Allah Rabbul Izza qui nous donne la possibilité d'être présents ce soir pour apprendre deux versets du Coran. Mais deux versets, subhanallah, d'une importance capitale, comme bien sûr tous les versets du Coran, mais deux versets qui mettent en avant, qui nous montre une réalité qui est cachée, qui nous montre une réalité qui ne fait pas partie du monde du visible, une réalité qui ne fait pas partie du monde, de tout ce qui est prouvé sur le plan médical, scientifique. C'est quelque chose en rapport avec le raïb, en rapport avec l'invisible. C'est ce qu'on appelle al-ayn, le regard. Alors, quelle est cette histoire du regard et quel rapport avec le prophète alayhi salatu wassalam? Avant d'entrer dans le vif du sujet, on a juste oublié une petite introduction sur l'importance du mois de Rajab. Je pense qu'il est nécessaire. Quand on parle du mois de Rajab, immédiatement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Mi'raj, oui ou non? Quand on dit on est dans le mois de Rajab, très souvent, le croyant, il donne de l'importance au mois de Rajab par rapport au 27e, par rapport au Mi'raj. Mais, subhanallah, le Mi'raj a eu lieu combien de fois, Salih? Combien de voyages nocturnes y a eu lieu? Une seule fois. Le Mi'raj a eu lieu une seule fois. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a accompli quand il était à Makkatul Mukarrama. Et ensuite, Allah Rabbul Izzah lui a donné la possibilité de faire le hijjah, d'aller à Madina. Il n'a jamais été relaté pendant les années à Madina que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les sahaba ou quiconque continuait à parler régulièrement du Mi'raj, spécifiquement arrivé à la date. Tout en sachant qu'il y a divergence d'opinion entre les ulama de la Sira concernant la date précise du voyage nocturne. L'avis général, l'avis qu'on retient, qu'on peut appeler, je pense qu'on peut appeler ça un Jumhur, l'avis de la majorité des savants, c'est qu'il aurait eu lieu le 27e Rajab. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le Mi'raj a eu lieu une seule fois de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'objectif du Mi'raj, il y en avait, subhanallah, plusieurs. Et Allah seul sait les raisons, les véritables raisons et la sagesse, la hikmah dans ce voyage nocturne. C'était un encouragement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un encouragement pour l'ensemble des musulmans. Et c'est un encouragement pour nous également, notre époque, pour Salih, pour Ibrahim, pour Ikrama, pour Bilal, pour subhanallah Hudhayfa, pour chaque personne à chaque époque, le voyage nocturne est une source de réconfort et d'encouragement. D'encouragement, tout d'abord, parce que nous voyons l'aide d'Allah Azza wa Jalla, la nusrat d'Allah. Lorsque les Quraysh lui ferment les portes de Mecca, lorsque la tribu de Thaqif, de Taif, ferme les portes de Taif, d'accord? Lorsque le prophète alayhi salat wa sallam ne trouve pas de l'aide auprès des membres de sa propre famille, auprès de sa tribu, et que toutes les portes se ferment à lui, Allah Rabbul Izzah lui montre que les portes des cieux lui sont ouvertes en grand, et les portes des sept cieux. À chaque ciel, il y avait l'ange qui était donc le gardien du ciel, et il demandait qui c'est qui s'approche, qui est la personne. Et l'ange Jibril alayhi salam présentait que c'est lui Mohammed. Et à chaque fois, l'ange lui souhaitait la bienvenue pour montrer que les portes du ciel étaient grandes ouvertes pour le prophète alayhi salam. Et le prophète a eu même accès auprès du trône d'Allah Azza wa Jal pour recevoir en cadeau la salat. Le prophète alayhi salatu wassalam a pu voir le paradis, il a pu voir l'enfer, il nous a décrit les délices, les récompenses du paradis et il nous a décrit également les châtiments de l'enfer. Et pourquoi est-ce que c'est un encouragement pour nous également, pour les sahaba à cette époque bien sûr, qui vivent les persécutions, afin qu'ils voient quelle est la justice d'Allah. Même si là, en ce moment à Mecca, il y a un zulm, il y a une injustice envahissante de la part des ennemis, des Quraysh, mais le jour de Qiyama, la justice, elle est de cette façon. Comme Allah l'a révélé dans le Coran, comme ils ont lu les versets du paradis, les versets de l'enfer, mais en plus que ça, le prophète a eu la possibilité de le voir et de les décrire. Et également, les récompenses du paradis, c'est une source de réconfort pour les sahaba, mais également pour nous, quelles que soient les époques, nous avons presque un visuel de ce que le prophète a vu, et nous avons un visuel de ce qu'il nous a décrit concernant les châtiments du Jahannam, concernant celui qui consomme de l'intérêt, concernant celui... qu'Allah nous protège de ses péchés, de l'intérêt, la personne qui accomplit l'adultère, également les péchés, les châtiments que le prophète nous a décrits concernant la personne qui fait le namim, qui colporte la médisance, la calomnie, qui colporte les nouvelles pour créer du désordre, la zizanie. Donc tout ça nous a été décrit par un homme qui l'a vu et qui nous le raconte, et donc c'est une mise en garde par rapport à ses erreurs, par rapport à ses péchés. Voilà tout l'enseignement et la sagesse. Et Allah seul sait les autres sagesses qu'il y a de le voyage nocturne. Mais on retient que ce qui nous intéresse par rapport au voyage nocturne, ce sont les enseignements, les dénouements, tout ce qu'Allah a donné au prophète, tout ce qu'il nous a raconté, tout ce qu'il nous a décrit. Pas uniquement le voyage. Parce que le voyage en lui-même, c'est quelque chose qui est khas, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sans le moindre doute montre et prouve la supériorité du prophète par rapport à tous les autres créatures. Le fait qu'il ait rencontré Allah azza wa jalla, ainsi de suite, subhanallah, ça montre comment est-ce que le prophète est aimé par Allah azza wa jalla. Mais nous concernant, et là qu'on voit un petit peu notre approche de la religion qui n'est pas la bonne, qui est souvent paradoxale, on va donner plus d'importance au voyage nocturne qu'à ses enseignements. Vous avez saisi la nuance? Quand c'est le 27e Rajab, là tout le monde y met des jolis kafnis, des jolis bonnets, c'est une bonne chose, hein, il faut s'habiller correctement. On vient à la masjid, alhamdulillah, on ne va pas dire aux gens, non, il n'y a rien à faire, rentrez chez vous. Non, alhamdulillah, les gens sont là, nourun ala nour. Mais pourquoi est-ce que les gens viennent à la masjid? Et Allah seul les juge des intentions, on ne juge personne. Mais dans la culture, et là on parle de culture, dans notre culture, on a intégré que 27e Rajab est donc synonyme de Mi'raj, donc là il faut se pointer à la masjid. C'est une bonne chose, moi je ne dis pas non, que les gens viennent et que éventuellement s'il y a un rappel, quelqu'un fait un rappel sur la prière, ainsi de Mashallah, ça peut être profitable et la guidée peut venir de n'importe quelle façon par une parole. Mais ce qui est paradoxal, c'est notre attachement pour l'événement et le non-attachement, l'absence totale d'attachement pour les enseignements de cet événement. Et le plus grand enseignement de ce voyage nocturne, le plus grand natija, le plus grand résultat, salih, c'est quoi? Le plus grand cadeau du voyage nocturne. Ah, aussi, vous sortez un voyage nocturne. Vous sortez fini d'arriver. Je crois que les yeux, les comme ça, c'est pour tu rêvais. Tu étais au quel ciel? T'as rencontré quel prophète? Réfléchis. Mais là, pour l'instant, reste avec nous. Après, tu continueras ton mi'raj dans un instant. Quel est le plus grand résultat du voyage nocturne? Ce sont les salawat. Quel comportement irrationnel que celui qui vient à la salat d'Isha un 27e le soir pour écouter le récit. Quelqu'un qui fait un récit. Et le lendemain, il ne vient pas à la salat de Fajr. Il y a Akhi. T'es venu écouter le récit. Et tu as retenu que le prophète a reçu la salah, 50 salahs qui étaient ramenés à 5, et que c'est la chose la plus importante, la première chose à propos de laquelle nous serons questionnés, et que le prophète ne reconnaîtra pas les signes du wuzu, des ablutions sur le visage. Alors tu as retenu juste l'histoire, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup les histoires nous, mais on a oublié l'enseignement, et le plus important c'est la confiance en Allah, le fait de savoir que tout est dans les mains d'Allah. Ne te fie pas à ce que tes sens perçoivent, la méchanceté des gens, ce que tu vois comme méchanceté, ce que tu entends comme méchanceté, ce que tu sens peut-être, les gens peut-être te frappent, ce que tu ressens comme méchanceté. Ne regarde pas tout ça. Garde confiance en Allah. Personne n'a été plus persécuté que les Sahaba. Mais voyez le grade et la place qu'Allah leur a donné, leur a promis à travers le voyage nocturne et qu'Allah leur a accordé. Et que si les hommes te ferment les portes d'Allah restent grandes ouvertes à partir du moment où on est dans le haqq, on est dans le droit chemin. Donc ces versets comme Nun wal qalami wa ma yasturun et les autres versets qui encouragent le Prophète, c'était donc des versets du Coran et le voyage nocturne, c'était un encouragement que le Prophète va vivre. Donc ça c'est le grand enseignement. Dans toutes les situations critiques que nous vivons, nous savons qu'il y a un akhirah, il y a un au-delà. Il suffit de franchir les cieux pour arriver dans un monde qui est totalement différent et ce monde il est immense. Il est incomparable. Et quand le Prophète décrit les anges qu'il a vus dans les cieux, ainsi de suite, ça nous donne une idée comment nous, on est infiniment petits et que dans ce petit caillou où que les gens s'entretuent, même si les choses se passent de la pire des façons, le plus important, c'est le retour là-haut. Et le Prophète est parti là-haut. Il nous a expliqué c'était comment là-haut. Et on a iman yaqin dessus. Ça, c'est un enseignement capital pour la foi en Allah, pour la confiance en Allah. Et l'enseignement capital en termes de amal, parce que le din est basé sur la foi et les actions. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Toujours. Il n'y a pas inna alladhina amanu. Inna alladhina amanu est toujours accompagné de amilu salihat. L'enseignement qui nous intéresse en termes de iman, d'accord ? De qualité intérieure, cette confiance en Allah qu'on comprend à travers le voyage nocturne. Et maintenant, l'enseignement en termes de amal, en termes de pratique et d'action, ce sont ces cinq salats. Donc, c'est une longue parenthèse pour dire que quand on parle de Rajab, immédiatement on pense au Mi'raj. Mais il faudrait changer la mentalité. Réaliser que le Rajab, oui, c'est extrêmement important, pas par rapport au Mi'raj. Le Rajab est important parce qu'il fait partie des Ashhurul Hurum, des quatre mois sacrés. Inna iddat ash-shuhuri, le long verset qui a été commenté par Ibn Abbas, si je ne me trompe pas, par Ibn Abbas, radiallahu anhu, le long verset, inna iddat ash-shuhuri, inda Allahi 12 shahran, fi kitabillah, ila akhir al-ayah, et dans ces 12 mois, Allah a décrété que 4 mois soient des mois sacrés. Et quand il y a un mois sacré, Allah Azza wa Jal attend un comportement précis de la part du musulman. Et le seul mois sacré qui est détaché des autres, c'est le mois de Rajab. Ce mois qui est entre les deux Jumada et le mois de Sha'ban. Quand on parle du mois de Dhul-Hijjah, tout le monde sait que c'est un mois sacré. On doit réaliser que le mois de Rajab est également un mois sacré. Alors donc, mois sacré, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un comportement spécial de la part du musulman. Ibn Abbas, radiallahu anhumain, a donc commenté ce verset, il dit « Ja'ala dhamba fihinna a'azam » Allah a décrété que les péchés durant ces mois sont plus lourds en conséquence, sont plus graves. Les péchés durant les mois sacrés sont plus graves pour Allah Azza wa Jal, sont plus lourds en conséquence. « Wal amala saliha wal ajra a'azam » Et les bonnes actions, ainsi que les récompenses, les rétributions, sont supérieures durant ce mois sacré. Ça, c'est Hablul Umma qui nous le dit. La corde de la Umma. C'est le plus grand mufassir de l'histoire. C'est le plus grand mufassir du Coran, Ibn Abbas, qui nous dit que donc, durant ces mois sacrés, le moindre péché, c'est grave. C'est plus grave que durant les 8 autres mois de l'année. Et que les bonnes actions ont beaucoup plus d'importance durant ces 4 mois. Et donc, c'est un mois que nous vivons. Donc, nous devons donner de l'importance. Bien inconscient, celui qui considère que Rajab est important par rapport uniquement au Mi'raj, et donc c'est uniquement le 27e qui va se préparer pour venir à la mosquée. Alors que l'important de ce mois a commencé depuis le premier Rajab. Depuis le premier Rajab, c'est un mois sacré. Donc, on doit donner beaucoup d'importance à ce mois. Et j'avais quelques notes que, qadar Allah, je n'ai pas amenées. On avait un sahaba qui avait posé la question concernant les actions, le comportement plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Rajab. Il avait demandé est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait? Et le sahaba a répondu oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait durant le mois de Rajab. Wa yusharrifuhu. il donnait de l'importance. C'était un grand honneur que de jeûner durant ce mois de Rajab. Donc c'est un mois où on doit essayer d'augmenter notre quantité de saum, de jeûne. Idéalement, si durant ce mois de Rajab, on peut jeûner au moins tous les lundis et les jeudis. Et le 13, 14, 15, c'est déjà, mashallah, une bonne action. Et en complément, les savants rappellent également que le mois de Rajab, sachant que c'est un mois sacré, ça te permet déjà d'avoir une prise de conscience spirituelle. Et du coup, on va faire attention au péché, comme Ibn Abbas nous a conseillé, et on va essayer de faire plus de bonnes actions, sachant que c'est important. Du coup, ça deviendra une préparation pour le mois de Ramadan. Si deux mois avant Ramadan, on a déjà une prise de conscience et on est vigilant face au péché et persévérant dans les bonnes œuvres, ça veut dire qu'on est en train déjà de se mettre dans un cercle spirituel. On commence à préparer le mois de Ramadan. Et ça, c'est une facilité de la part d'Allah Azza wa Jal. Sachant que juste après Rajab, il y a le mois de Sha'ban, de lequel il y a ce qui est décrit comme étant la nuit du pardon, avec les hadiths qui sont hassan, presque au niveau authentique. Donc, c'est une nuit importante. Donc, là également, le mu'mine se concentre. Tout ça, ça nous permet, d'une certaine façon, de nous préparer pour ce grand mois. Et si on a des résolutions à prendre, ben c'est vraiment durant le mois de Rajab, concernant les somnes nafil, déjà on les prépare, concernant nos prières, le tahajjud idéalement, concernant la lecture du Coran, on doit essayer de redémarrer, de reprendre le bon rythme de lecture du Coran durant ce mois de Rajab, et ne pas attendre uniquement le mois de Ramadan pour démarrer la lecture, car on a la possibilité de comprendre l'importance de ce mois et de lui donner son importance. Allahumma amin. Pour revenir donc au verset, les derniers versets de la sourate Al-Qalam. Alors, Ibn Kathir, rahimahullah, et Ibn Kathir, on va combiner les deux tafsirs, ils expliquent que la méchanceté des Quraysh était telle que non seulement ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas par rapport à son caractère ou sa personne, parce que c'était l'homme de confiance, la meilleure des personnes de Mecca, mais par rapport au message qu'il a apporté et qu'il est dérangé profondément. Donc, non seulement il le détestait, non seulement il l'accusait à tort de plein de choses, non seulement il colportait de fausses nouvelles le concernant avec toutes les tribus, non seulement il le calomniait, non seulement ils ont essayé de porter atteinte à sa vie, non seulement ils ont tué, persécuté ses sahaba, mais même avec leur regard, dans la façon de regarder, ils avaient ce regard rempli de haine, ce regard rempli de méchanceté, ce regard rempli de jalousie, avec pour objectif de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que nous retenons de le verset, c'est que c'est la façon dont Allah Rabbul Izza nous donne l'information. Peu s'en faut que ceux qui m'écroient ne te transpercent par leur regard. Bon, la traduction est un peu... c'est tellement éloquent que c'est un peu lourd. Ça veut dire qu'ils essaient et ils auraient pu, mais Allah les en empêche. Ils auraient pu atteindre ou faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement par leur regard, mais Allah azza wa jal les empêche de causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par, on pourrait dire, mafhoum khalafa, par compréhension inversée, on peut déduire, Ibn Kathir rahimahullah, il explique que وفي هذه الآية دليل على أن العين de ce verset, il y a une preuve claire et évidente que le regard إصابتها وتأثيرها حق, que le regard de méchanceté, le regard envieux, le regard de jalousie, c'est حق, c'est une réalité. وإصابتها, et que ce regard peut atteindre quelqu'un. وتأثيرها, et l'effet de ce regard sur une personne, c'est quelque chose de réel. L'islam combat la superstition. Dans Riyad al-Salihin, Nabil n'est pas là pour nous le rappeler, dans Riyad al-Salihin, on a vu récemment que parmi les personnes, les 70 000 personnes qui vont entrer dans le Jannah bi ghayri hisab, Allahumma ja'alna minhum, ce sont des personnes qui n'ont aucune superstition, qui n'ont aucune fausse croyance, à part la yaqin, conviction en Allah, ils ne croient rien d'autre. Pas le mal que les gens peuvent éventuellement te faire par des gestuels ou par des habitudes ou autre chose. Aucune superstition. La yatatayyarun. Donc l'islam combat la superstition. D'accord ? Par contre, ce, on va dire ce concept, le regard, le ayn, ça peut paraître comme étant quelque chose d'irréel. Certes, c'est quelque chose d'irréel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui ne se mesure pas. C'est quelque chose qui ne s'explique pas sur le plan scientifique. Comment est-ce possible qu'une personne qui jouit d'un bienfait est aperçue par deux êtres différents et une personne n'a aucune mauvaise intention ni aucune jalousie? Il y a deux choses. Il y a la mauvaise intention, on va développer une charna, et la jalousie. Il y a une personne qui n'a rien de ces deux défauts de son cœur, et donc, il n'y a aucun problème. Et, à l'autre coin de rue, tu rencontres une personne qui a un manquement de son iman, ce qui fait que la personne est jalouse, et que la personne a laissé la jalousie qui fait partie des péchés intérieurs, qui nécessite d'être nettoyé, lavé par une tazkiya, par une purification intérieure, par une pensée d'Allah, une confiance en Allah, en développant iman billah, et surtout iman bil qada et wal qadr, sur le destin, pour chasser la jalousie, pour réaliser que tout vient d'Allah, c'est Allah qui est muqassim, c'est Allah qui donne le risque. Donc, on revient, la personne s'est laissée envenimer, la personne a laissé la jalousie posséder son cœur. Et le résultat, quand la jalousie possède ton cœur, c'est que ton cœur est envieux. Il suffit de voir ou de savoir parfois même. Enfin, même pas voir, hein. Il suffit de savoir que quelqu'un à tel endroit où a réussi ses études, où il s'est marié avec Foulane, avec telle personne, ainsi de suite, pour qu'immédiatement, vous savez, comme les remontées gastriques, là, ça remonte, c'est une remontée de jalousie et ça devient une obsession. Et tu ne penses qu'à ça. Quand quelqu'un est malade intérieurement, spirituellement, par al-hasad, par la jalousie, ça devient quelque chose qui va le hanter. Ça devient quelque chose qui est difficile à vivre et la personne en est malade psychologiquement parce que quand on est envieux, quand on est jaloux, ben cette maladie-là, elle peut s'éveiller plusieurs fois par jour. Il suffit de voir quelqu'un qui a une plus grosse voiture, qui a une plus jolie maison, ou qui est marié alors que toi tu n'es pas marié, qui a des enfants alors que tu n'as pas des enfants, qui a un meilleur travail, bref, des bienfaits de ce dunya. Ce qui montre déjà que cette personne, son cœur est attaché uniquement au bien de ce monde. Déjà, il a faux dans ses attentes et dans ce qu'il admire. Alors qu'Allah Rabbul Izzah nous informe qu'il n'a mal hayat dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathur fil amwali wal awlad. Et au lieu de réaliser que ce monde c'est un jeu, c'est un concours, les gens ils se concurrencent pour avoir plein de choses, mais qu'en finalité ce monde et ses bienfaits n'ont aucune valeur. Donc déjà, la personne a un grand manquement dans les valeurs. C'est pas qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qui n'a pas d'importance. C'est-à-dire que la personne qui a ce regard envieux, on doit avoir pitié de lui. C'est quelqu'un qui est malade de la tête aux pieds, mais surtout au cœur. Qui est malade spirituellement. Premièrement, il n'a pas compris les réalités de ce dunya et les réalités du akhirah. Il se focalise sur la voiture, la famille, la maison, le job, les fins du mois, le mode de vie, le rythme de vie. C'est la seule chose qu'il va regarder chez quelqu'un. Il ne sera pas jaloux de savoir que, subhanallah, cette personne se réveille à 2h du matin. J'ai appris récemment qu'un collègue, en discutant, il n'a pas fait exprès, mais ça, c'est pas par ostentation, c'est sorti d'une conversation, j'avais envoyé un message pour Imam Ahmad, toujours le sujet qui fâche. Il m'a dit que moi, il me lève 3h du matin, il fait mon tahajjud et m'éteint mon téléphone, tous les jours. Il m'a dit, ah quand même. C'est pour ça qu'on doit être jaloux. Moi, je suis jaloux, mais dans le bon sens, admiratif. C'est pour ça qu'on, pour ce genre de qualité, on peut être jaloux. Comme le prophète alayhi salat wa sallam rappelle la hasada illa fi ithnain. La jalousie est permise que dans deux cas. Celui qui Allah a donné le Coran et qui l'enseigne, le ilm, qui propage, et celui à qui Allah a donné les biens et qui donne, qui dépense matin et soir. Là, c'est possible. Mais à part ça, c'est incohérent. Parce que être jaloux, c'est ne pas accepter ce qu'Allah t'a donné et ce qu'il ne t'a pas donné. Et les savants disent, non, on va un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, l'objet de sens, c'est qu'on comprend le sens. Les savants rappellent que pourquoi est-ce que iman bil qada et wal qadr, c'est essentiel de développer la foi sur le destin? C'est parce qu'avec la foi sur le destin, hein, tu ne vas plus perdre ton temps à regarder ton voisin. Vous vous rappelez de cette vieille publicité au début des pubs? quand, je ne dis pas le nom de la grande surface, c'était ouvert, quelqu'un rentre, enfin c'est les anciens, les vrais, ils vont savoir, chérie, voisin, veille à nous. Et ça reste dedans, ça. Hein? Ça, c'est les pubs qui datent de, on avait peut-être 8 ans ou 9 ans. Parce que le voisin, il rentrait avec un grand chariot, il venait de faire les courses. Et le voisin, il veille. A-t-il acheté un grand chariot, il a le moyen, et ainsi de suite. C'est-à-dire, tant que on ne développe pas iman sur le destin, on continuera à veiller, à surveiller, à regarder le panier de ton voisin, à regarder ses bienfaits. Parce que, premièrement, on a oublié que ça, ça n'a pas d'importance pour Allah. Allah donne à n'importe qui ça. Même à ceux qui n'ont pas la ilaha illallah, ils ont des buildings, ils ont les biens de ce monde. Et si ça avait plus de valeur que l'aile d'une mouche, Allah ne l'aurait même pas accordé. C'est qu'il n'y a aucune valeur ça pour Allah Azza wa Jal. Allah donne ce qu'il aime aux gens qu'il aime. Iman, la tawfiq pour faire a'mal saliha, le Qur'an, les épreuves. Allah accorde à qui il aime le ilm, la compréhension de la religion. Ça, ce sont des bienfaits qui comptent et qu'Allah donne à qui il veut. Donc déjà, le jaloux, il ne considère pas les bienfaits. Il ne sait pas l'échelle de valeur et fossé. Deuxièmement, il oublie que tout vient d'Allah. Et que le fait de ne pas être d'accord ou d'être jaloux, ça veut dire que tu n'acceptes pas la décision d'Allah. Donc, le tazkiya, elle va de ce sens pour la jalousie. Que la personne réalise iman billah, iman bil qada'i wal qadr, et comprend que tout est une... qu'Allah, il est ar-razaq. Tu n'es pas d'accord avec ar-razaq? Est-ce que tu es prêt à dire à Razak, pourquoi moi mon risque il est tout petit et lui son risque il est gigantesque? Inimaginable, inimaginable. Donc, voilà donc les défauts qu'il y a dans cette personne. Celui qui est jaloux, qui atteint les autres avec ce regard envieux, c'est que c'est une personne qui est malade spirituellement. On doit faire doua pour cette personne. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a donc ce genre de personnes, cette catégorie de personnes existe. Celui qui a ce manquement et qui se laisse entraîner par la hasad, qui a rongé son cœur et qui finit par développer un regard envieux, rempli parfois de méchanceté, incontrôlée ou contrôlée, ça c'est le pire. Et qui se laisse perturber par Shaitan qui joue avec lui, qui joue avec ses sentiments. Ce genre de personnes existe. Ce genre de regard négatif et préjudiciable existe, comme Ibn Kathir rahimahullah nous le rapporte. Ce verset prouve que si Allah n'avait pas protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le regard de ces gens, il aurait été atteint. Mais peu s'en faut que, ça veut dire Allah l'a protégé. Ça veut dire que pas tout le monde est protégé. Ça veut dire que cette chose existe, mais ça veut dire également qu'on peut être protégé. Donc on dit ce qu'Ibn Kathir dit que العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل bien sûr par l'ordre d'Allah عز وجل. Dans le hadith de Abu Dharr رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لا تولع الرجل بإذن الله حديث dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام nous explique, c'est rapporté par Imam Ahmed dans le Musnad. Alors je retrouve, il y avait un terme, un mot difficile. Ay la tahrisu ala idaihi, dit que le regard peut faire du tort et peut, on va dire, peut faire énormément de mal à une personne. On va résumer. Le regard peut faire énormément du mal à une personne, mais de le hadith cité bi'idhnillah par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que le regard est une réalité, comme on a expliqué, mais ce n'est pas une fatalité. Le regard, tout comme, quel est l'autre, on va dire l'autre point un peu occulte qui peut faire du tort et qui n'est pas palpable? La sorcellerie, sihr. La sorcellerie également, c'est quelque chose qui est réel. On a vu avec l'histoire de Sulaiman, alayhi salam, il y a les versets « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ » comment est-ce que la sorcellerie a été enseignée, et ainsi de suite. C'est quelque chose de réel, mais là aussi, c'est cité « وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » Le sens du verset, ils ne peuvent faire du tort à quiconque sans l'ordre d'Allah, uniquement avec l'autorisation d'Allah. Et pour le Ain, le prophète Ali se le regarde, pour ça me dit la même chose, bi'idhnillah. Ça peut faire beaucoup de tort à une personne, par l'ordre d'Allah, l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est quelque chose de réel, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas une force parallèle qui traverse les frontières et qui agit de façon anarchique, aucunement. Parce que n'oublions pas que Allah a créé le bien et a créé le mal. Min sharri ma khalaq. Quand on lit qul a'udhu bi rabbil falaq, on demande protection à Allah Azza wa Jal contre le mal qu'il a créé. C'est-à-dire que Shaytan, Iblis, wa junudu et son armée, Ad-Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Al-A'in, Al-Sihr, toutes ces choses qui sont mauvaises et peut-être d'autres que j'oublie, c'est créature d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah qui décide comment est-ce qu'ils agissent, avec une façon de procéder, mais toujours bi'idhnillah, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Tout comme le mal de Dajjal, même si c'est d'une ampleur extraordinaire, les miracles qu'accomplira Dajjal, ressusciter les morts et ainsi de suite, mais il ne le fait qu'avec l'autorisation d'Allah. Et à un moment donné, Allah lui reprendra ce pouvoir. Et celui qui lit Kahf est protégé contre lui. C'est-à-dire que tout ce qui est mal, et surtout quand c'est dans le domaine de l'invisible, ça fait peur. Parce qu'on n'a aucune maîtrise. Quand on parle d'une maladie, une molécule, on est rassuré. Cette maladie, ce virus t'a touché, tu prends l'antibiotique et ça va aller. Parce que ça reste quelque chose de palpable, qu'on peut tracer à travers une analyse de sang, à travers un scanner, à travers une échographie. On peut voir la trace, même si c'est infiniment petit, et on sait comment soigner. Chimiquement, c'est possible de soigner. Mais quand on parle du Ayn, il n'y a pas de médicament anti-Ayn. Il n'y a pas de pommade anti-Ayn. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de pommade protection. On peut se protéger du soleil, mais il n'y a pas de bombe anti-Ayn, malheureusement. Ça n'a pas été inventé encore. Donc, quand c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune maîtrise, c'est un peu plus effrayant. Et attention, dans cette... Je dis c'est effrayant, mais on ne doit pas en avoir peur. Voilà. La frontière, c'est que c'est réel. Ça peut être intriguant, mais on ne doit pas en avoir peur parce que le musulman, premièrement, il place sa confiance en Allah. Deuxièmement, il demande protection à Allah contre le Ayn. Et troisièmement, il lit les doigts masnoun, les versets et les doigts que le prophète nous a enseignés contre le regard. Et quatrièmement, il prend les qui complètent les précautions pour ne pas être atteint par le regard envieux, malicieux et néfaste. Hada. Donc voilà en résumé concernant le Ayn. Donc, on essaie de reclasser un peu parce qu'il y avait plein de points, mais on a mélangé tout, d'accord. Autre preuve de l'existence du Ayn, qui me cite l'histoire d'un prophète qui avait donné un bon conseil à ses garçons. Allons, Hudhayfa, Yaqub alayhi salam, qui avait dit à ses fils, le verset c'est Yabunayya la tadkhulu min babin wahidin, rectifiez si je me trompe dans le début du verset, wadkhulu min abwabin mutafarriqa, la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Quand les fils de Yaqub alayhi salam devaient revenir pour voir le roi, enfin, ils ne connaissaient pas c'était qui, et pour demander de nouveau, et là Yaqub leur a demandé de ne pas entrer par une même porte. Pourquoi? Parce que les fils de Yaqub alayhi salam étaient beaux. Et le fait que des frères aussi beaux entrent en même temps, ça aurait attiré le regard des gens. C'est pour ça que Yaqub leur a demandé d'entrer, selon un des tafsirs, leur a demandé d'entrer par des portes différentes pour éviter donc le regard. En commentaire, vous fassiez dire que quand tu as un bienfait, remercie Allah. Jouis du bienfait. Utilise le bienfait, troisièmement, dans le droit chemin. Et ensuite, bien sûr, n'utilise pas le bienfait de le mal, ça c'est clair. N'expose pas excessivement le bienfait. Il est bête de l'exposer de façon ostentatoire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vivre caché. Non. On n'entre pas non plus dans des psychoses où tu as une voiture mais tu prends le bus pour pas qu'on voit que tu as une voiture. Attends, tu as des chaussures mais tu marches pieds nus pour pas qu'on croit que tu as l'argent. Là, c'est de la maladie. C'est une maladie qui existe, hein. Quand il y a des gens qui rentrent dans des tanattu', dans des obsessions qui vont très loin. Et le juste milieu, c'est reconnaître que c'est vrai et prendre les précautions, lier les doigts, et ensuite, on s'en remet à Allah Azza wa Jal. Parce que c'est illa bi idhnillah. Tu peux prendre, Salih, Hudhayfa, toutes les précautions. Le bienfait, tu fais preuve de reconnaissance, tu utilises le droit chemin. Tu demandes la protection contre le mauvais regard. Et tu n'exposes pas le bienfait, mais le mauvais regard te touche quand même. C'est parce qu'Allah en a décidé. Tu peux lire tous les doigts de protection contre la sorcellerie. Quand on voit un sachet d'un carrefour, tac, ou fait, comme il dit, on va casser de gens dessus un trottoir, on ne roulera pas dessus. Bon, mais tranquille, mon ben rousse 20 pouces, donc il n'a pas de problème. Mais ça fait partie des précautions à prendre. Si tu sais qu'il y a ce genre de mal, ben roule pas dessus. Tu n'as pas à dire que tawakkalna ala Allah et précaution, mon frère, sois cohérent, donne protection et agis comme il faut. D'accord ? Mais tu as beau prendre toutes tes précautions, éviter plein de choses et ainsi de suite. Et comme ça, c'est maman qui dit toujours, on est à une époque où le monde est mauvais. Les gens sont méchants. Elle dit, il suffit parfois que tu aies une altercation avec quelqu'un, tu l'as soit remis à sa place, soit recadré, ou soit tu as rectifié quelque chose qu'il fallait faire, et que la personne t'en veuille énormément, et n'hésite pas à avoir recours au sihr, à la sorcellerie. Donc le message était, ne fais pas du tort aux gens. Oui, ne fais pas du tort aux gens, d'accord, mais quand c'est haq, c'est haq. Quand il y a quelque chose à dire, il faut dire. Quand il y a quelque chose à rectifier, il faut rectifier. Quand quelqu'un a mal agi, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et ne pas à chaque fois se dire que, ah non, vaut mieux je ne dis rien parce que lui, il va voir le sorcier foulain, foulain. Là, on ne vit plus. On ne vit plus parce qu'on va rentrer dans une psychose. Et deuxièmement, ça prouve que tu n'as aucune confiance en Allah. Tu ne penses pas que ton Seigneur est capable de te protéger. Tu ne penses pas qu'Allah Rabbi Aïza est capable de protéger son serviteur, qu'il invoque et qu'il se prosterne devant lui. Bien sûr que oui. Donc, ne pas faire une obsession du Aïn et du Sihr, et ainsi de suite, tout en prenant les précautions nécessaires. Et à travers l'histoire de Yaqub alayhi salam, on voit que ne pas exposer les bienfaits excessivement. Après, il y a un autre point également. Savant dit également, n'accuse pas. Il y a des fois où on fait volum sur Shaitan. Où c'est nous qui opprimons Shaitan. C'est-à-dire que toutes ces Shaitans, ça. Ah, ça c'est mauvais regard. Ah, ça c'est jadou. Ça c'est najal. À la base, c'est aïn. Et puis, il y en a qui disent navar. C'est un synonyme. Et puis, c'est devenu avec plusieurs modifications à travers modifications génétiques et culturelles. On dit nazar. Et puis, il y a najal. Quelqu'un dit, mais il est trop najal. Ah, je dis, mais c'est quoi les gars, il est trop najal? Après, on dit, ah, le mauvais regard. Ok. Donc, il y a des fois où on met la faute sur toutes ces choses paranormales. Et le paranormal a le dos très large parfois. On fait du tort, on fait dommage au paranormal. Il y a des fois où le manquement vient de toi. Il y a Harry. Tu ne pries pas correctement. Il n'y a pas baraka dans ta vie. Va pas chercher des ennemis ailleurs. Tu ne te réveilles pas par la salat de Fajr. Tu n'amènes pas la baraka à ta maison par la lecture du Coran, par la lecture des hadiths. Tes enfants ne prient pas. Ton épouse s'assoit sur le fauteuil, regarde les séries brésiliennes, je ne cache pas quelle heure. Elle ne fait pas la salat de Isha. Comment tu veux la baraka rendre à ta maison? Il n'y a pas de ta'lim, il n'y a pas de dhikr dans la maison. Comment tu veux la bénédiction rendre à la maison? Il y a des portraits partout et ainsi de suite. Comment tu veux les malaïkas rendre à cette maison? Donc ne cherche pas le mal dans le paranormal. Cherche le mal dans les manquements. À partir du moment où tu es clean, tu fais tout ce qu'il y a à faire, après c'est autre chose. Autre chose également, on ne donne pas assez de sadaqa. Et il n'y a rien de mieux pour éloigner le mal que la sadaqa. Si quelqu'un ne donne jamais de sadaqa, il lui arrive des problèmes. Il ne faut pas qu'il va chercher des coupables. Il est lui-même responsable de ses problèmes. Parce que la sadaqa, il faudrait le donner tout le temps, régulièrement. Et ça éloigne les choses mauvaises. Ibn Qayyim, rahimahullah, je ne sais plus si c'est une citation ou s'il remonte la parole à un sahaba à vérifier. Il dit qu'on soignait les gens malade par le mon. Et là, il y a, si je me trompe, un hadith, da'wou mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades par le mon, par la sadaqa. Si tu ne donnes jamais le mon, tu gardes ton argent, tu thésaurises tout ça pour même ça. J'ai gagné, je ne donne pas. Puis il arrive des problèmes, c'est que là, tu n'as pas donné suffisamment de sadaqa. Donc il faut voir plus large et ne pas chercher plein d'excuses, plein de raisons. Donc ça, c'est un autre point. Autre point concernant. Détail que j'ai oublié, le fait de ne pas exposer excessivement les bienfaits sans en devenir une obsession. Ça va te donner des enfants. C'est pas que je ne sors jamais avec mes enfants, faut pas que les gens voient plus les enfants. Ça, c'est excessif. C'est un extrême. Par contre, ce qui est vraiment hamadjiya, ce qui est insensé, et ce que je ne comprends pas, comment est-ce que les gens peuvent faire ça, c'est un père de famille qui va prendre en photo sa femme et ses enfants, se prendre en photo et mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Instagram, sur Facebook, et il va montrer à tout le monde. Après, il dit, t'es, là, il faut me savoir, on écoute ta avis, parce que ma gagne Nadjal. On a gagné Nadjal, ou la ronde Nadjal, ou gagne Kabab, c'est normal. Tu as cherché des problèmes. Ça, c'est un conseil qu'on donne aux jeunes mariés. Ça, c'est une calamité. C'est une calamité. Ils se marient, ils vont mettre des photos d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être des gens qui, depuis des années, ils attendent, ils essaient de se marier, ils n'arrivent pas. Et donc, il y a une souffrance intérieure. Et quand ils voient quelqu'un qui a des bienfaits, même si la personne n'est pas mal intentionnée, son cœur fait mal, son cœur saigne. La personne est triste. Ça, c'est néfaste. Ça, c'est exposer excessivement et de façon stupide les bienfaits. Donc, j'ai une personne, un jeune, qui m'avait parlé ça il y a quelques temps. Beaucoup de problèmes de le couple en rapport avec ça. Il m'a dit que, et puis il m'a avoué qu'on a un gros problème. Mon épouse est fan d'Instagram. Moi, j'ai même pas de compte Instagram. J'ai ouvert mon compte une semaine dernière. Je suis tombé au hasard dessus, mais c'est juste pour voir c'est quoi. Mais, et puis je vois des exemples et tout. Mais les gens, ils exposent leur vie. Mais il n'y a pas de sens. Déjà, un peu de pudeur concernant ta personne, concernant ton épouse, concernant tes enfants. Protège-les. Il n'y a pas exposé. C'est pas une marchandise. Donc, ça, c'est la porte ouverte au mauvais regard, si on doit absolument éviter. Dans le hadith du prophète, il dit encore al-ayn haqq wa law kana shay sabiq al-qadar sabaqat al-ayn. Le regard, c'est quelque chose de réel, et si il y avait une chose qui allait, qui pouvait précéder le destin, ce serait le ayn. On le fait comprendre que c'est quelque chose qui peut intervenir, qui peut changer ta vie. Mais le prophète nous a dit également que s'il y a quelque chose qui peut changer le destin, ce sont les doigts. Donc, demande protection contre le mauvais regard et fais ce qu'il y a à faire et surtout évite toutes choses qui peuvent te mettre dans ce genre de difficultés. On a largement dépassé le temps. Les responsables ont fermé la masjid. On ne peut pas continuer. Bon, je pensais compléter. On est comme Yadjoud et Madjoud. Chaque fois, on dit, c'est bon, cette fois-ci, on a terminé, mais peut-être qu'on oublie de dire Inch'Allah. Donc, on n'a pas encore complété le qalam. Je ne veux pas bâcler ce sujet parce qu'on a beaucoup de hadiths très intéressants. On n'a pas vu les doigts de protection. Je pense qu'on doit donner un peu de temps pour ça. On va compléter ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et ensuite, on va démarrer, Inch'Allah, la sourate Al-Haqqa. Qu'Allah donne la possibilité de comprendre ces paroles. Qu'Allah nous protège du regard, du mauvais regard, de tout ce qui est mauvais. Et qu'Allah nous donne la confiance qu'on doit avoir en lui. Cette confiance qui nous permet d'être protégés avec une conviction en lui. Et de prendre des précautions si on peut ressortir de cette assemblée également avec un petit enseignement concernant les doigts ou les ayat à lire. Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on doit lire les mu'awidhat, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, ainsi que ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ainsi que la fin de al-baqara, lillahi ma fis samawati, jusqu'à la fin, tous les soirs avant de dormir, souffler sur soi. Pour as-salam, la dernière chose qu'il faisait avant de se coucher, c'était de souffler, on va dire positionner dans ses mains, de lire le mu'awidat et de souffler sur soi. Les savants disent qu'on doit demander à nos enfants de le faire. S'ils sont en bas âge, ils ne peuvent pas le faire. Il est du devoir du papa de le faire et de souffler sur les enfants. Ensuite, Ayatul Kursi, l'Iyad à la maison, et Akhir al-Baqara, l'Iyad tous les soirs, c'est une garantie de protection jusqu'au matin. Et si on peut renouveler ça le matin, c'est profitable. Parmi les adhkar qu'on doit lire pour être protégé, ça c'est vraiment du béton armé là. Là vraiment c'est du double vitrage, triple vitrage avec ça, il y a les aïnes. Rien, Inch'Allah, ne transperce pas. C'est lire 100 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tous les matins. C'est une protection, Inch'Allah, jusqu'au soir. Des a'mal qui sont faciles. D'accord, ça ne coûte rien. Il y a combien de gens qui se font arnaquer ou qui gaspillent leur argent en allant voir des gens payant na'oud billah et ils entrent dans des a'mal qui sont en rapport avec le shirk. Qu'Allah nous protège, c'est par jahl et par manque de yaqeen. Jahl, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et par manque de yaqeen, il ne pense pas qu'Allah est capable de leur accorder la protection. Et pas uniquement ça, même s'ils lisent, ils n'y croient pas réellement. Quelqu'un lit, il lit, mais il n'a pas réalisé le poids de ce verset. Comment est-ce que cela peut lui protéger définitivement? Quelqu'un qui lit avec yaqin, subhanallah, c'est autre chose. J'ai assisté à des séances de lecture, subhanallah, al-Madina, al-Munawwara, j'en ai eu des frissons. Mais des frissons, parce que le cheikh, quand il lisait, il y avait une telle conviction, je dis que punaise, ce qu'il est en train de lire, c'était comme une flèche. Je n'exagère pas, j'en avais des frissons. Quand il lisait les mêmes versets que nous lisons, mais on sentait une conviction. C'est comme si qu'il prenait les versets, c'est une image, il jetait sur la personne malade. C'était exactement ça. C'est comme si qu'il le transperçait. On se disait que quoi qu'il peut exister comme mal, cette personne, ça ne peut pas résister. Parce que ce que cette personne est en train de lire, c'est hyper puissant. C'est ce que nous lisons tout le temps, mais avec un iman, avec une vie de droiture, bien sûr, a'mal, avec des actions à ne pas faire, l'éloignement des péchés. Il m'avait donné il voulait m'enseigner, je n'ai pas appris. Il m'a dit que je t'enseigne, mais à condition, tu te blindes avec 1000 fois. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin tous les jours. 1000 fois. La hawla wa la quwwata illa billah. 1000 fois des adhkar que j'ai oublié. Il dit que ça, c'est le quota minimum. C'est-à-dire que renforce ton cœur. Cœur renforcé, iman renforcé, éloignement des péchés, poids de la lecture. Sinon, ça reste léger. Il m'a dit que c'est comme une personne qui prend une arme, j'allais dire une kalash, mais kalash c'est associé à d'autres choses. Mais imagine, allez, on reprend l'exemple. Quelqu'un qui a une kalashnikov, mais qui a la main molle, il ne sait pas comment tirer. Il appuie, que c'est tellement fort qu'il lâche, tu ne vas pas effrayer quelqu'un. Mais quelqu'un qui le tient, même si ce n'est pas une kalash, quelqu'un qui a même une matraque, mais qui est fort, qui le tient fermement, ça va porter atteinte, parce que la main qui tient est une main solide. Donc on va essayer de voir. Là on a vu, c'est versé, il n'y a pas d'autre. Peut-être c'est un doua. C'est essentiel de le lire matin et soir et de se protéger. Certes, on vit dans un monde étrange où les gens sont animés des pires des intentions, et lorsque la jalousie pénètre les cœurs, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de iman, il n'y a plus de limites, il n'y a plus du halal, du haram. Quand on fait du tort aux gens, on le fera de toutes les façons possibles, mais ce n'est pas une fatalité, parce que rien ne se produit illa bidhna sans l'ordre d'Allah. On continuera inshallah la prochaine fois, qu'Allah nous garde tout ça protection. Subhan rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Et n'oublions pas de lire تبارك الذي بيده الملك avant de dormir. جزاكم الله